Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté.
Salut Guillaume.
Salut Mario, ça va?
Ça va très très bien. On joue à cachette avec l'identité du gardien de demain, mais le vote populaire donne le filet à Caden Primo. Est-ce que t'es d'accord?
Ah ouais, j'aime pas ça, c'est correct. C'est à partir du moment qu'on a le roulement à trois, je pense qu'il faut respecter chaque joueur et la carrière de chacun. Fait que ouais, j'ai pas de problème à ce qu'on... Est-ce qu'on va mettre Caden Primo ou Montembeau dans les filets?
Ben dans le sens que la logique voulant qu'on donne le filet au gars du moment, lui, il ne pouvait pas revenir le lendemain. Ben, il aurait pu, là, mais tu sais, c'est rare qu'on donne un 2 en 2. Fait que ça serait de récompenser son départ de samedi comme on peut. On l'a fait la semaine d'avant pour une première fois depuis le début de la saison avec Samuel Montembeau. On verra bien de toute façon. Aller devant le filet, Guillaume, le coach, fallait-tu qu'il soit convaincant pour que tu ailles là comme tous tes coéquipiers? Là, je veux pas cibler ça juste sur toi, mais sur n'importe quel joueur de la Ligue nationale. Aller se planter devant ou autour du filet, risquer de se faire mal pour aider l'équipe?
Ah ouais, c'est vraiment... Peut-être ça a changé un peu aujourd'hui, là, mais dans le temps, c'était complètement... complètement fou, honnêtement, Mario, là, d'aller devant les filets. Je me souviens, on a sorti un soir, en partant contre les Bruins de Boston quand tu en avais avec le gros Charon avant les filets, je peux te dire que tu revenais avec quelques bleus, là. Mais j'ai une fois que je me rappelle très bien, j'étais rentré dans le vestiaire, puis je pense que c'était contre les Islanders, puis c'était Sean Hill au bord. Puis j'avais dit à Jerv, faut que tu me mettes une plaque dans le dos, là. Il m'avait rajouté quelque chose à peu près de, je sais plus combien gros dans le bas du dos qui sortait de ma culotte, parce que honnêtement, ça avait aucun sens, les coups de bâton qu'on recevait dans le bas du dos pour aller se positionner là. Mais le pire dans tout ça, oui, les matchs, ça faisait mal, mais nous autres, dans nos années, en tout cas, c'était souvent je veux pas dire le non-respect, mais les gars, ils voulaient pratiquer leur tir, ils voulaient pratiquer comme un match. Des fois, il t'en sifflait 2-3 sur le bord des oreilles d'un pratique ou sur le bord, je me souviens, Sheldon Surrey m'avait cassé un orteil dans une pratique du matin. Je peux te dire qu'à 10h30 le matin, ça surprend quand même pas pire. Fait que disons que c'est une job qui est le fun parce que tu peux ramasser des petits garbage goals gratuits, mais c'est une job quand même qui peut faire mal.
Ben, tu sais, tu parles de la rondelle. Honnêtement, il n'y a rien qui fait plus de dommages que la rondelle sur la glace, Guillaume.
Ah oh, et la rondelle, quand elle est bien gelée puis qu'elle tire, surtout, tu sais, à cette heure avec les bâtons, la force des gars, les tirs sont encore beaucoup plus forts. Là, avant, tu sais, t'avais des Surrey, des Marc-André Bergeron, des gars comme ça qui avaient vraiment des tirs frappés, où ce que t'avais peut-être plus le temps de voir le tir arriver, mais à cette heure, là, les tirs du poignet sont tellement vifs, puis ça, ils sortent tellement rapidement. Que c'est assez surprenant. Là.
Les gens participent à la conversation, puis c'est la suite de ce dont je discutais avec Martin tout à l'heure en mentionnant des noms. Je sais pas s'il y a un nom qui te vient en tête quand tu penses à un gars efficace dans cette zone dangereuse-là, quelqu'un qui osait aller se planter là, ou qui des fois... Oui?
Ouais, ben moi, c'est sûr, celui... Moi, quand je suis arrivé avec le Wild, dans le fond, on m'a dit, voici ce qu'on veut que tu fasses en avant des filets, puis à tous les soirs, avant les matchs, on avait un ordinateur, puis les joueurs, puis les entraîneurs nous mettaient des clips. Des fois, tu sais, on avait des rencontres individuelles souvent, mais souvent, c'était juste un « Hey, je t'ai mis 10 clips dans ton ordinateur. » Tu t'en allais, t'allais dans ton ordi, tu checkais. Moi, c'était toujours Thomas Armstrong avec les Red Wings de Détroit.
Il était vraiment bon, lui.
Ouais, lui, c'était vraiment... Pour moi, je te dirais que c'est dans les meilleurs. C'est sûr qu'on pense aujourd'hui à des Joe Pavelski, des gars comme ça. Mais pour moi, là, dans Kreider, mais dans gagner son espace, réussir à gagner du temps pour ses partenaires... dévier les rondelles, récupérer les rondelles derrière le filet, monter à T. Sauf que dans tout l'ensemble de l'œuvre, Thomas Armstrong, pour moi, était dans les tops, c'est certain. Là.
À cause de son gabarit, il y en a plusieurs qui vont dire c'est la job à Slavkovski. Le vois-tu ainsi?
Je ne sais pas assez à quel point il est bon pour dévier les rondelles, ces choses-là. Tu sais, parce que au-delà de... Honnêtement, le gabarit, pour moi, oui, ça rapporte énormément, là, mais...
C'est plus que ça.
C'est plus que ça. C'est de se timer. C'est vraiment d'être... Quand la rondelle part, tu te mets plus gros. Après ça, ce que tu veux, c'est réussir à faire chercher la rondelle au gardien. T'as beau être le plus gros du monde, si tu bouges pas, les gardiens à cette heure sont tellement travaillants, ils réussissent à aller chercher l'angle, ils réussissent à se positionner, puis on se retrouve que le joueur devant le filet, ça a rien un petit peu. Fait que c'est vraiment d'être capable de te lever, de descendre, de bouger, d'être capable de cacher sa vision, puis c'est ce qui est le plus dur. Fait que si en plus de ça, t'es capable de faire ça, puis t'es capable de dévier les rondelles facilement, ben là, c'est sûr que tu deviens efficace. Mais oui, Slavkovski, à sa charpente, c'est sûr que ça va de soi là, qu'il pourrait être un joueur très intéressant.
Toi, quand ça rentrait pas, Guillaume, qu'est-ce que tu faisais? Tu changeais-tu de couleur de ruban adhésif? Tu mettais-tu une chaussure avant l'autre à l'envers de ta routine habituelle le matin? Qu'est-ce que tu faisais pour retrouver le fond du filet?
Honnêtement, je frappais un petit peu plus.
Ah oui? Tu t'impliquais physiquement?
Ouais, tu sais, il y a des soirs, ben surtout, tu sais, parce que moi, on m'évalue à Montréal, puis j'ai eu complètement une carrière différente avec le Wild, tu sais. Fait que quand je parle de ça, je parle avec le Wild, tu sais, j'avais un rôle puis un impact complètement différent, tu sais, avec le Wild. Tout ce qu'on me demandait, c'était en début de match, 2-3 bonnes mises en échec pour donner le ton puis passer un message à l'équipe adverse. Puis après ça, amuse-toi, joue au hockey. Mais c'est sûr que quand ça allait moins bien, au lieu d'être 2-3, c'était 5-6, puis j'essayais de retrouver mes mains de cette façon-là, puis de me mettre dans le game. Puis aussi, si je gagnais pas du temps pour moi, ben je gagnais du temps pour Martin Havlat, que lui, après ça, était capable d'être créatif puis de créer les jeux pour être capable de... Tu sais, il y a des soirs que j'en ai marqué des buts que je n'avais pas de main, puis ça allait pas bien, puis Martin réussissait à me trouver dans un endroit qui était clé. Mais on avait réussi, de par notre façon de jouer, à ce que peut-être ça allait moins bien pour moi, puis j'y ai créé de l'espace, puis c'est ça un duo au final.
Absolument. Qu'on travaille, là, qu'on insiste à ce stade-ci, ça fait plus qu'un an et quelques. Tu trouves-tu que c'est lent avant qu'on amène des concepts? T'sais, le mot concept est utilisé moins souvent, mais aller devant le filet, là, c'est pas un concept sorcier, là. On a le quart de la saison de franchi, on a joué l'an passé. Mais il me semble que c'est du basic. T'es-tu d'accord?
Ben, aller devant le filet, oui, c'est du basic, c'est du vouloir. T'sais, regarder Brendan Gallagher, comment. C'est pas le plus gros bonhomme, puis il est là, puis il se fait frapper, puis il est dérangeant devant le filet. C'est juste du vouloir, puis c'est juste de mettre ça clair que c'est ton travail. T'sais, moi, là, quand j'allais dans le coin chercher la rondelle, si je la redonnais pas en haut, puis je m'en allais pas au filet, mais l'avantage numérique d'après, j'avais pas l'opportunité d'y aller. Là. T'sais, on me disait, hey, c'est quoi ta job? Ma job, c'est de la donner en haut, puis c'est créer, de faire allonger la boîte défensive. Ma job, c'est pas de patiner avec, c'est pas de la garder 3 secondes. C'était pas ça mon travail. C'est de la récupérer dans le coin, de la donner à quelqu'un, puis retourner au filet. Mais faut que ça soit clair que c'est ça ta job, c'est ça ton rôle, puis c'est pour ça que t'es là. T'es un joueur de plus. Si t'es capable d'avoir ton joueur de plus autour du filet pour récupérer une rondelle, déranger le gardien adverse, je pense que tu viens de prendre un certain avantage.
Et c'est difficile, clairement, puis même Martin Saint-Louis l'a reconnu, donc il y a comme une vente à faire pour convaincre les joueurs d'y aller, mais tu sais, c'est facile, mais je les comprends de réfléchir avant d'aller se pointer là, ne serait-ce que pour les mentions que t'as, les raisons que tu as mentionnées, c'est-à-dire les tirs et les coups.
Mais des fois, Mario, tu penses que c'est ça l'affaire, le plus important pour moi pour faire un bon joueur devant le filet, c'est le vidéo. Parce que des fois, tu penses que t'es là. Des fois, tu penses que t'es là. Des fois, tu penses que t'es devant. T'es juste deux centimètres à gauche, pas dedans. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui.
C'est vraiment un art. Tu sais, les meilleurs joueurs qui sont capables de le faire, c'est parce qu'ils sont parfaits. Après ça, c'est de connaître les tendances de tes défenseurs. OK, parfait, c'est Jacky qui a rondelle. Là, il est pas là, mais c'est Jacky qui a rondelle en haut. Lui, il a un bon lancer du poignet. Il prend deux steps. Je le sais qu'il va lancer. Fait que je peux déjà me tasser vers lui. Si j'ai un David, tu sais, dépendamment c'est qui, moi j'avais dans le temps, c'était Marek Ziliki, je le sais qu'il lançait pas. Fait que je pouvais tricher plus haut dans zone parce qu'elle allait descendre en. Tu sais, fait que c'est toutes des tendances de connaître avec quel partenaire que t'as, quel partenaire qui est sa patinoire, au-delà de ça, puis après ça, c'est de faire du vidéo, puis de vraiment dire, gars, là, t'es pas devant. Tu penses que t'es là, des fois, t'es pas là, puis Luongo joue pas à rondelle pareil que Brodeur, puis joue pas à rondelle pareil que Price. C'est de connaître aussi le gardien. Il y en a qui jouent plus petit par en bas. Il y en a qui vont se monter plus haut. Donc, toutes ces tendances-là, les meilleurs joueurs autour du filet, ils étudient ça puis ils sont au courant de ce qui se passe.
Quand tu es obligé d'essayer de convaincre ton monde d'y aller parce qu'ils sont pas chauds à l'idée, c'est-tu parce que tu n'as pas assez de joueurs affamés?
Ben, je vois pas comment on peut pas avoir des joueurs affamés. Comment on peut pas qu'on est obligé de dire à des joueurs c'est ta job puis tu y vas, tu sais, au final. Là,
mais pourquoi ils vont pas, Guillaume? Pourquoi ils vont pas?
C'est une bonne question, puis va falloir taper sur des doigts puis enlever des opportunités puis en mettre d'autres. Tu sais, au final, là, ça fait 10 fois qu'on dit à Slavkovski, vas-y, puis il va pas, mais c'est plus l'avantage numérique. Puis tu mettras un défenseur en avant pour passer un message, si tu veux. Les Bruins de Boston, il y a eu combien d'années que c'était Zdeno Chara qui allait en avant quand les gars, ça allait plus ou moins bien. On repartait tant qu'on mettait Chara en avant des filets. Ben, des fois, ça passe un message, puis c'est ça qu'il faut faire. Il faut trouver une façon, mais c'est sûr que c'est pas facile, mais il y a quelqu'un dans cette équipe-là, sur les 12 attaquants, qu'il faut qu'ils soient capables d'aller en avant du filet, au moins sur les avantages.
Ils vont finir qu'ils vont tirer à courte paille. Je sais pas comment ils vont régler ça, mais tabarouette, Guillaume. Ou bien, le shérif va retrouver son étoile de shérif en allant se parquer là, mais qu'ils reviennent de temps en temps. Je ne sais pas, un peu sur le modèle de Chara. J'ai une question concernant Cole Caulfield. Il est sur une cadence de production d'environ 21 buts. Ça veut pas dire qu'il en marquera pas 30. Ça veut pas dire qu'il va en marquer 21. Il va peut-être arrêter à 15. Mais il a beaucoup donné vite. C'est correct. Je pense qu'on a confiance qu'on a donné ça à un athlète sérieux qui prend soin de lui. Mais toi, là, sais-tu garanti? Garanti. Il n'y a rien de garanti dans la vie. Mais t'es-tu convaincu que notre scoreur de l'avenir, pas juste de ce qu'il a fait dans sa jeune carrière à date, mais que c'est lui? Tu sais, t'es-tu toujours aussi convaincu que c'est lui notre étoile offensive du futur?
Ouais. Côté scoreur, Mario, là, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un marqueur de but comme ça. Un gars être capable de trouver le petit trou, être capable de trouver son positionnement. En ce moment, pour moi, c'est mental, là. En ce moment, c'est juste ça. Regarde l'année passée ce qui est arrivé, ou c'est il y a 2 ans. Parce que quand Dom Duchamp était là, il n'avait pas marqué. Martin est arrivé, il a réussi à... C'est un but que ça prend, 1 ou 2 buts des fois, qui sont... C'est ça un marqueur de but. C'est souvent par séquence. Puis Caulfield va être comme les autres. Tu peux pas en marquer 80. Fait qu'il va en marquer des saisons de 30, il va en marquer des saisons de 45, il va en avoir des saisons de 50. C'est ça la réalité d'un marqueur de but. La seule différence en ce moment, c'est que là, il est attendu. Fait qu'il fait partie des plans de match adverses. Les défenseurs l'attendent. Et on connaît un peu plus ses tendances. Fait qu'il n'y a plus de surprise avec lui. Moi, personnellement, ce que j'aime pas, je trouve qu'il perd beaucoup de bagarres un contre un. Puis son petit jump qu'il avait, là, ses premiers 2-3
oui.
pas, qu'il réussissait à détacher les joueurs,
oui.
je trouve qu'il l'a pas cette année. Il l'a pas pour sa main. Souviens-toi le but contre Vegas, là, quand Robin Lehner en série avait dit, ah, il se compte toujours à la même place. Le défenseur était là, les 2-3 premiers steps, il a dépassé, il a mis ça dans l'ucarne. Je trouve qu'on voit pas ça encore. Puis même sur l'avantage numérique, je trouve que c'est lui, souvent, quand la rondelle arrive à lui, qu'on dirait qu'elle saute puis que le jeu meurt.
Et malgré ça, t'es convaincu que t'es pas ébranlé dans la vision que c'est l'étoile offensive du futur, même si tu constates ça?
Non, je suis pas stressé parce que ça reste encore un jeune joueur. Ça reste encore un gars qui a même pas, il a pas beaucoup de temps encore dans la Ligue nationale de jouer, là. Tu sais, dans tout ce qu'il a réussi à accomplir dans le court laps de temps, je pense qu'il était l'adrénaline, le momentum, tout était là. Un moment donné, tout ça redescend. C'est là que tu te stabiliser, l'étiquette, ton identité. Puis lui, il est là-dedans. Puis en ce moment, ce qu'il faisait il y a l'année passée, qui fonctionnait super bien, est plus difficile. Il va juste se réajuster. C'est ça, les joueurs étoiles. Il va se réajuster à un nouveau modèle, une nouvelle façon. Il va changer ses angles de tir. Puis dès qu'il va en marquer 1 ou 2, il va être parti. On peut arriver, là, puis samedi, il en marque 2. Puis après ça, il est parti, il va en scorer 10 en 15. Puis on parlera plus de ce qu'on parle là. C'est ça, un marqueur de but, surtout naturel comme lui.
T'as probablement raison. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que la dernière fois qu'on s'est questionné là-dessus, je me rappelle que Daniel Brière, il m'avait répondu un peu comme toi, voulant dire un marqueur de but, t'en comptes un. Mais moi, je disais, ouais, mais Dan, c'est pas un peu de la pensée magique. Puis on connaît le reste du toit, il est vraiment parti, puis il en a marqué plusieurs. Je regarde le Brincat, à qui on le compare souvent. Première année dans la Ligue, 28 buts en 82. Deuxième année, 41 en 82. Après ça, 18 en 70. Mais tu sais, il a eu des saisons plus tranquilles aussi. 27 l'an passé. Là, il est à 13 en 27. Il est parti sur quand même, mais je sais pas s'il le fait en trichant, là, parce que tu sais, l'an passé, moins 31 de Brincat. C'est sûr que c'était à Ottawa. Mais tu penses-tu que Caulfield est un meilleur joueur en ce moment, même en produisant moins parce qu'il y a un différentiel de 0, que le gars qui en a marqué 26 l'an passé qui était à moins 10 ou 23 l'année d'avant à moins 24?
Non, moi, je trouve... Moi, cette année, c'est dans les petits détails. Oui, il est peut-être meilleur défensivement, mais je trouve que son match, je trouve qu'il paraît moins cette année. Je trouve qu'il est moins flamboyant. Il est moins... Il est moins électrisant, il est moins. Puis c'est ça, je trouve que c'est ce qui le différenciait des autres. Il y avait un petit quelque chose que les autres n'avaient pas. Puis c'est un peu ce qui me bug cette année de Caulfield. Comme je dis, il va être très bon, il va être encore là. Puis oui, il va en avoir des saisons d'après moi de 20 buts, 25 buts, puis il va en avoir des saisons de 50. comme Alex DeBrincat, mais un marqueur que tu veux qui en fasse 50 puis qui te fasse gagner un gros match, il va tricher plus que ton gars de quatrième trio, c'est certain. Il n'y a pas le choix. Tu peux pas demander à Alex Ovechkin de jouer de la même façon que tu vas demander à un gars de quatrième trio. T'as pas le choix qu'il triche à certains moments. T'as pas le choix de certaines lacunes que tu dois accepter de ces joueurs-là parce que c'est tes game breakers. C'est eux autres qui vont te faire gagner le gros jeu. Tu dois juste être capable de cibler qu'est-ce qui est acceptable puis qu'est-ce qui l'est pas au niveau du concept d'équipe. Puis après ça, tu dois les laisser ces joueurs-là parce que c'est de l'élite. C'est des joueurs, justement, qu'il faut que tu leur laisses cette latitude-là. T'as pas le choix.
Après la saison 2016, Alex Galchenyuk avait marqué 30 buts. Il y avait 26 passes, 56 points. Puis si on posait la question, je suis convaincu, j'ai pas d'enregistrement pour le prouver, est-ce que Galchenyuk sera le moteur de l'offensive du Canadien qui va devenir un aspirant? Tout le monde aurait dit oui, hein, Guillaume?
Oui, probablement, Mario. Puis s'il n'y avait pas eu ces problèmes hors glace, peut-être que ça serait arrivé. Quand on regarde les vidéos qui sont sorties cet été, c'est pas drôle. Là,
c'est pas drôle, tu
la débandade, pas de la carrière, de la vie de ce jeune-là. Puis je suis certain qu'avoir réussi à garder la tête sur terre puis de ne pas perdre justement tout ça, je suis certain que c'est un joueur qui aurait pu faire des grosses saisons dans la Ligue nationale. T'sais, on ne sait juste pas c'est quand que ces problèmes ont commencé. Puis c'est quand que ça a commencé vraiment à nuire, mais ça a été quand même rapidement dans son début de carrière.
Oui, en effet, mais on lui demandait de jouer mieux défensivement, puis on lui avait donné beaucoup de liberté pour qu'il en marque 30. Mais de toute façon, oui, c'est une bonne réponse, Guillaume. Alors, on gère de voir ça demain, Crosby et compagnie, contre les Canadiens à Montréal. Un gros merci, mon cher, puis on se retrouve jeudi avec Max pour le duo.
Yes, sir. Salut la gang, bye-bye.
Bye-bye, bye, Guillaume. Merci bye, beaucoup bye. D'avoir été là.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Ouais, merci d'être là, tout le monde. Du hockey sur nos ondes demain, alors que les Pingouins de Pittsburgh seront les visiteurs. On va reparler tout à l'heure avec Daniel Sauvageau en prévision de ce match-là. Non, pas le seul sujet que nous allons aborder, bien évidemment. Et nous accueillerons également Philippe Lagu, qui est allé voir le film Ferrari, alors qu'on approche du congé des fêtes. Puis peut-être que ça pourrait faire un divertissement intéressant. C'est à ne pas manquer. Mais d'abord, parlant des Pingouins de Pittsburgh, je suis convaincu que pour lui, qui est maintenant jeune retraité du monde du hockey, la visite des Pingouins alors qu'il réside dans la région de Montréal, ben ça doit être une belle occasion, sans aucun doute, d'aller revisiter ses anciens coéquipiers. Maxime Talbot, l'ancien des Pingouins, des Flyers notamment, qui était avec nous. Bonsoir, Maxime.
Bonsoir, Mario. Comment ça va?
Ça va bien. Content de te parler. T'as-tu planifié d'être au Centre Bell demain pour aller saluer tes anciens potes?
Je vais être là. Donc, je suis super excité. J'amène... mon garçon et deux de mes neveux, là, le garçon à Bruno Gervais, puis le garçon à Jean-Michel Daou, deux de mes anciens coéquipiers. Donc, ça va être super cool comme soirée. J'anticipe, oui, aller voir les boys. C'est leur c'est le voyage par fils avec les Penguins de Pittsburgh. Donc, on verra si les joueurs vont avoir un peu de temps, là, mais j'ai vraiment hâte.
Qu'est-ce que ça te fait de revoir ce groupe-là? T'as pas passé toute ta carrière avec les Pingouins, mais sans aucun doute, les années les plus inoubliables, sans rien enlever ce que t'as vécu par la suite, là?
Non, ben c'est certain. Je m'en cache pas. Hein. Mes années avec les Pingouins, j'appelle souvent Pittsburgh ma deuxième maison pour une raison. Sans rien enlever, comme tu dis, aux autres expériences que j'ai vécues avec les trois autres équipes de la Ligue nationale. Mais de gagner une place, de jouer là-bas 6 ans, c'est spécial. C'est là que j'ai vécu mes meilleurs moments, puis aussi... mes plus belles amitiés. Là.
T'es-tu surpris que Evgeny Malkin, que Chris Letang et Sidney Crosby soient encore tous trois membres des Pingouins rendus à leur âge?
Quand même, oui. Je t'aurais dit peut-être, tu sais, Sidney, non. Mais Chris et Evgeny, je sais qu'ils ont les opportunités, tu sais, en étant agent libre là, dans les dernières années, ont les opportunités de quitter les Pingouins et d'aller voir ailleurs, peut-être aller jouer au soleil, des choses comme ça. Ils ont décidé de rester avec les Pingouins. Pour moi, ça me parle beaucoup parce que ça fait partie de la culture des Pingouins. Ils savent qu'ils sont privilégiés de jouer à Pittsburgh, que c'est une organisation qui traite bien les joueurs et qui retrouveront peut-être pas ça ailleurs. Oui, ils vont trouver d'autres avantages, le soleil, peut-être même des chances de gagner d'autres championnats parce que les Pingouins, avec la saison qu'ils ont cette année, sont un petit peu en trouble. Mais oui, je suis surpris pour ce qui est de Vianney puis Christopher, mais je suis très content en même temps. Et ça, je suis surpris, mais ça m'étonne pas parce que, tu sais, pour moi, quand j'ai quitté les Pingouins, c'est après que j'ai réalisé, oh, OK, on était très bien là-bas.
Ben, c'est intéressant. Je vais revenir à la situation des trois gars, mais avec le recul, là, puis j'imagine que ça devait être des sentiments déchirants parce que tu étais attaché à ce noyau-là. Il reste que, bon, dans la gestion de la masse salariale, la plus belle offre, c'était pour l'avoir, c'était de quitter les Pingouins de Pittsburgh. Mais quand tu repenses à ça en rétrospective, est-ce que ça a été très déchirant? Tu peux pas avoir de regrets. Tu as eu un super contrat, mais tu comprends ce que je veux dire?
Oui, ben je comprends la question. Je me suis fait poser souvent. Non seulement que je suis parti quand j'étais agent libre, mais je suis parti aussi avec les Flyers. Donc, qui est une équipe rivale. mais je suis vraiment pas un gars qui vit avec des regrets. Là. Chaque expérience fait partie de qui j'étais en tant que joueur, qui je suis comme personne maintenant. Donc, j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup en jouant dans trois organisations par la suite. Est-ce qu'on aurait gagné d'autres coupes à Pittsburgh? Ils ont pas gagné pendant que j'étais que j'étais dans le national. Donc ça a été comme autant que tu te souhaites pour les boys, mais que tu dis quand même si elle avait gagné l'année après ou deux ans après, ça aurait fait très mal. Mais c'est des décisions que tu prends dans la vie, il faut que tu avances, puis de regarder en arrière, j'ai aucun regret, puis je prendrai même décision d'un matin.
De voir que ces gars-là sont encore là, c'est génial, la longévité, mais tu penses-tu qu'ils vont y finir leur carrière? Puis tu penses-tu que c'est une bonne décision pour l'organisation de les garder jusqu'à la fin de leur carrière? La plus-value au niveau de la culture de les avoir là jusqu'à la fin versus ce que tu pourrais obtenir en retour en échange de un ou quelques-uns de ces trois gars-là?
Ah, c'est pas une question qui est facile à répondre, Mario. Je te dirais que, comme tu le dis, là, moi, la culture, j'y crois. Je crois que ça prend des joueurs comme ça pour continuer. Tu sais, Sidney Crosby, là, même quand il va quitter l'organisation des Pingouins, que ce soit par la voie de la retraite ou peu importe, tout ce qui a amené chaque joueur qui ont partagé la patinoire avec lui, que ce soit pendant le camp d'entraînement, un jeune présentement qui est en train de se développer à Woodbury, qui a fait partie d'un camp avec Sidney Crosby, ça reste, ça colle. Et ça fait que cette équipe-là, là, même si oui, ils vont avoir un creux de vague, c'est certain, c'est inévitable. T'as été si bon pendant si longtemps, mais la culture va jouer pour beaucoup. Puis Sidney Crosby, je serais pas surpris qu'il reste dans l'organisation des Pingouins lorsqu'un peu à la manière de Mario l'a fait, peu importe dans quel rôle, mais ça va rester. Pour répondre à la première partie de ta question, qui sait s'ils vont terminer leur carrière là. Rendu là, moi je leur souhaite. Je leur souhaite aux gars. Puis cette année, là, tu fais une couple de petits changements. Là, on a vu Dubus qui a protégé Sullivan cette semaine. On verra où ce que ça va aller.
Ouais, tu prends ça encore pour les Pingouins quand tu les vois jouer?
Ben oui, c'est certain. je l'ai tatoué sur le cœur. C'est comme on dit, moi je prends souvent pour mes chums. Hein, je regarde Ottawa jouer, je prends pour Claude Giroux, puis le Colorado pour McKinnon. Je prends pas nécessairement pour les équipes. Je prends plus pour les joueurs, mais les Pingouins, c'est spécial. Je regardais Danny Crowell ce soir, qui est un gérant d'équipement. Là, ils sont en train de jouer présentement, les Pingouins. Ils viennent de prendre l'avance 3-2 contre Arizona en milieu de troisième, pour ceux que ça intéresse.
Ben oui, c'est à 2-2, fait que tu me renseignes là-dessus. Puis le powerplay a débloqué après 0-37. Christopher nous disait ça en entrevue hier. Là, il dit faudrait que le jeu de puissance débloque.
Exact. Carter marqué sur un avantage numérique. Donc, c'est des choses que tu dis... Je souhaite toujours pour les Pingouins. Je regardais, comme je pensais avant, Danny Crowell, qui est un assistant gérant équipement, qui a participé à son millième match ce soir. Puis, tu sais, lui, c'était ses premiers matchs, là, lorsque j'ai commencé dans la Ligue nationale. Donc, tu sais, j'ai une histoire avec plusieurs personnes d'organisation. Puis, c'est spécial. Là. J'ai hâte de faire ça demain à mon kid et ses amis.
Je sais pas si je peux te demander ça, là, c'est large un peu comme question, mais dans toute ta banque de souvenirs, c'est quoi ta meilleure histoire de Sidney Crosby?
Oh wow! Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais tu sais, Sid, je peux parler peut-être plus généralement, là, mais je pense que tout le monde le sait. Un peu comme Marc-André Fleury, qui a une réputation que tu peux pas défaire. Quand tu n'entends jamais de mauvaise histoire sur quelqu'un, c'est parce que le gars, c'est un vrai, puis c'est pas faux, c'est très authentique. Mais Sid, c'est un gars qui... Écoute, une histoire rapide, là. Quand on a, en 2010, l'année après qu'on a gagné en 2009, on était trois joueurs, moi, Mike Rupp, puis Fedotenko, qui avait marqué le but gagnant de la Coupe Stanley dans le match numéro 7. Donc, Rupp l'avait fait avec les Devils, fait tout un coup avec le Lightning, puis moi avec les Penguins l'année précédente. Donc, en début de saison, Sid avait fait un souper spécial, parce qu'il avait ramassé la facture, puis il nous avait fait faire des jackets bleus, un petit peu américains, avec une patch en avant qui était écrit JWG, Game Winning Goal, Game 7. Tu sais, c'est des petites attentions particulières que Sidney Crosby fait pour tout le monde. Puis, ce n'est qu'un exemple parmi plein d'exemples, mais tous les jours, il se présente avec le désir de gagner. Puis, tu le regardes faire ce qu'il fait cette saison là avec les Penguins, une petite équipe, une saison plus difficile. Il est là avec sa fougue, sa passion, puis il joue au hockey, il s'amuse. C'est très beau à voir aller.
Il y a beaucoup de buts cette année. Là, il devance Ovechkin, qui en a juste 5 pour l'instant. Puis tu sais, pour moi, de l'extérieur, qui n'est pas connu, c'est Sidney Crosby. Une des plus belles histoires, puis c'est sûr que ça s'était venu à tes oreilles. Là, c'est la fameuse histoire qui est en congé de quelques jours. Là, au cœur de la saison, il y a une pause à un moment donné pour toutes les équipes qui débarquent un matin tremblant puis qui met une coupe de bottines pour se faire des comptes à contourner pour pratiquer ses sorties du coin avec un jeune homme de tremblant. Tu sais, quand t'as entendu cette histoire-là, tu peux pas, hein, Maxime, avoue que c'est... Tu sais, le gars, il gagne ses avec ça, il pratique, il fait moins je sais pas comment, le gars, il débarque à la patinoire à Tremblant, puis il continue de pratiquer. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus, là, hein?
Non, ben, tu descendras à Varenne, là, au mois d'août l'année prochaine, puis tu verras Marc-André Fleury agir sur la glace avec plein de jeunes qui l'attendent pendant les écoles de hockey, lui, s'entraîne là, puis... il signe des centaines de
dégâts
après chaque pratique, avoir été sur la glace pendant 2 heures. Tu sais, c'est pour moi, c'est ça être un joueur de hockey. Tu sais, ça fait partie de ce que les joueurs font, c'est d'être une personnalité. Ça te tente pas toujours, mais tu le fais avec un gros smile, puis c'est un privilège de faire ça, puis marquer la vie des jeunes là, quand t'as cette plateforme-là, puis que ce soit Sidney Crosby ou Fleury, c'est des gars qui le font extrêmement bien, là.
Quel est ton lien avec le hockey aujourd'hui, Maxime, après quelques années après ton séjour dans la Ligue nationale, puis la prolongation de ta carrière en KHL, notamment, là?
Ben, je suis le 5e coach d'une équipe à Tombe 2A, les Mariniers de Sorel. Mon jeune garçon joue à Tombe, donc je coach des pratiques avec un excellent groupe d'entraîneurs. Puis, je regarde le hockey, je travaille encore à RDS, donc j'ai fait 20 occasions cette année, là, un peu, c'est 2 fois par mois, là, donc je le fais parce que j'ai encore la passion, j'aime ça, c'est un privilège de faire le hockey du Canadien. Puis mais sinon c'est ça. Je regarde les matchs comme je suis en train de le faire présentement. Je joue un petit peu, mais pas souvent. C'est ça. Je regarde ma carrière avec du recul, puis je me dis que j'ai été chanceux de faire ça pendant si longtemps.
Hey, j'imagine, hein? Puis veux pas d'être lié à un souvenir, puis on l'a évoqué de par le geste de Sidney tout à l'heure, de ton but gagnant contre les Red Wings de Détroit. Jusqu'à quel point, quand tu croises des gens que tu connais pas vraiment, mais dans des lieux publics, dans des arénas, que c'est le moment c'est le moment de ta carrière, en quelque sorte, hein, Maxime? Tu sais, tu peux pas coter ça ben, là.
Non, je pense pas. C'est ce qui sort de la bouche des gens, puis ça fait toujours... C'est un privilège, simplement, jouer dans la Ligue nationale. Ça sent dans le monde, puis c'est spécial faire partie de ce grand aigle-là. Je regarde l'été, des fois, on se côtoie les anciens joueurs, tout ça, puis d'avoir gagné, c'est un autre tête. D'avoir champion de la Coupe Stanley à côté de ton nom, c'est vraiment spécial. Donc, gros privilège, puis je prends pas ça avec légèreté. Je suis vraiment... fier de ça.
Il y a une dépêche qui vient de sortir, puis je te le demande, c'est pas une question qui te concerne vraiment, mais tu connais bien les États-Unis pour avoir joué à Pittsburgh contre Washington, Philadelphie. On apprend que Ted Leontis, le propriétaire des Caps de Washington, veut déménager son club de Washington, vers la Virginie. D'entendre ça, puis bon, je sais qu'il y a une couple de, bon, Richmond, William, mais c'est quoi ta réaction première de penser que les Caps quitteraient Washington vers la Virginie par rapport à la géographie, puis je sais pas si tu connais bien la Virginie.
Ouais. Ben, pas assez.
Pas tant, non?
J'ai reçu l'information tantôt, j'ai pas lu l'article. Ma première réaction sont là, c'est parce que ça doit être un pas pire spot. T'sais, nous, on connaît pas ça tant que ça, là, comme tu le dis, là, au Québec. Je souhaite juste que ça soit pas Canada versus Ottawa, la même situation, tu comprends un petit peu, ou même Sunrise avec avec Miami, tu sais, ou Fort Lauderdale, là, tu sais, c'est des petites erreurs que tu dis, tu mets le fil trop loin, ben c'est difficile. Là. Ottawa, serais-tu mieux, les sénateurs, serais-tu mieux dans le plan d'Ottawa à cause d'un marché de Gatineau? Fois mille, c'est sûr et certain, tout le monde aimerait mieux ça. Donc j'espère que ça sera pas la même erreur, mais connaissant, je connais pas Tavionis, mais quand quelqu'un dit que c'est comme ça en affaires, je pense pas que c'est une décision qui fait comme « Ah, ben peut-être qu'on devrait mettre ça là. Hein? »
Non, non, il doit avoir une longue réflexion derrière ça, puis même qu'il déménagerait les Wizards aussi de la NBA, fait que c'est un gros projet. Écoute, c'était pas prévu, je t'ai envoyé ça comme ça, là, une balle. C'est juste comme toi, j'ai vu la dépêche passer, puis j'ai dit je sais pas si Max connaît bien le coin. Ben, je te remercie beaucoup, je te souhaite une belle soirée avec les enfants demain. Et tu retrouves ton cœur d'amateur quelque part. Quand on accompagne les enfants, on voit ça à travers leurs yeux, hein, n'est-ce pas, Maxime?
Ah oui, ah vraiment, c'est moi c'est super. Puis, tu sais, c'est de voir, je dis toujours, je veux pas d'attente, tu sais, que ce soit d'aller voir les joueurs après ou quelque chose comme ça, mais tu sais, si des fois j'ai eu la chance de rentrer dans la chambre, il y a un an, j'étais là-bas avec tu sais, Malkin, puis Sid, puis le temps, puis les boys étaient là, les jeunes étaient là, puis de voir les yeux des enfants par rapport à juste prendre une photo avec un joueur national et dans le vestiaire, c'est vraiment des choses qui colle pour eux, puis c'est fun, ça fait rêver.
Ton gars, il prend-tu pour le Canadien, lui, ou il va prendre pour les Pingouins?
Non, les Pingouins. Les Pingouins, il est venu à Pittsburgh quelques fois, puis c'est ça. Et c'est caractéristique. Les Canadiens, on dit ça pour
ben oui, il y en a en masse, il y en a en masse des partisans, des enfants qui prennent pour le Canadien. Maxime, merci beaucoup, bonne nuit, puis à la prochaine, j'espère bien, puis on va peut-être se croiser demain à l'aréna, comme on dit.
Toujours un plaisir de
jaser,
Mario. Merci.
Merci, Maxime. Bye-bye. Maxime Talbot, l'ancien des Pingouins et des Flyers.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Ouais, nous voilà de retour. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Jean-Sébastien Hamal, membre de l'équipe des amateurs de sport, le Morning Man également de notre station 107.7 à Sherbrooke pour les auditeurs de l'Estrie. Un gars très occupé, très apprécié par tous ceux qui travaillent avec. Bonne fête, Jean-Seb, qui n'est pas avec nous ce soir. Et oui, c'est bel et bien 3-2 toujours pour les Pingouins. Il reste 8 minutes à faire seulement dans la troisième période de ce match-là. Le Canadien n'aura pas d'excuses par rapport à la fatigue parce que les Pingouins jouent ce soir, donc les Canadiens des jambes fraîches, un bon entraînement aujourd'hui. Nous accueillons Daniel Sauvageau. Bonsoir, Daniel.
Bonsoir, Mario.
Daniel, question d'entrée de jeu. Je l'ai modifié un petit peu par rapport à ce que je te suggérais quand on s'est parlé au téléphone. Notre conversation m'a aiguillé en ce sens. Puis je vais te demander, est-ce que Cole Caulfield est un meilleur joueur en ce moment, même s'il ne trouve pas le fond du filet, que celui qu'on a vu allumer les lumières rouges avec régularité à ses deux premières campagnes?
Oui. Pourquoi? C'est un joueur qui développe beaucoup plus que sa simple habileté de marquer. Là, j'entends des gens dire, oui, mais le but au hockey, c'est de marquer. Vous avez entièrement raison. Et puis, suite à notre conversation, Mario, j'ai regardé ses trois premières saisons. Tu me diras que c'était aussi la première année lorsque il a fait son entrée en 21-22.
Oui.
Il a quand même joué 67 matchs. Son premier but, il a compté à son 12e match. Et son deuxième, il a compté que le 10 février. Et ensuite, il a terminé là, la saison avec 23 buts. Et oui, c'est l'arrivée aussi de Martin Saint-Louis. Puis on disait, bon, ben Martin Saint-Louis était un petit joueur, un joueur rapide, un joueur d'instinct. Alors, c'est pourquoi c'est que Caulfield retrouve sa touche qu'il avait là lorsqu'il évoluait au collège. Et ensuite, l'année passée, bon, on sait qu'il a été blessé. Il a terminé avec 36 points, dont 26 buts. Et il a été excessivement régulier l'année passée. Il y a eu que deux séquences, en fait, une séquence d'une série de trois matchs sans but et une série de quatre matchs sans but. Et cette année, il y a 7 points, on est rendu en décembre, mais c'est là qu'il y a plusieurs séries, une de 5 et 2 de 6, qui n'a pas été capable de marquer. Mais encore une fois, ce que Martin nous disait, je veux développer son coffre à outils pour qu'il puisse durer dans le temps et d'être capable de non seulement marquer des buts à profusion dans ses premières années, mais de mieux apprendre et de jouer longtemps, un petit peu comme je vous entendais tantôt parler de Crosby. Je ne veux pas le comparer à Crosby, Mais ce dernier, là, il est rendu à sa 19e année et puis il est encore là. Alors, ce que Martin veut faire avec Cole, c'est un joueur plus complet. Je n'aime pas quand, lorsqu'on dit qu'on veut le sortir de sa zone de confort. Moi, j'ai l'impression qu'on veut créer de nouvelles zones de confort. Et là, il se retrouve entre deux. C'est pas confortable.
Non, et pourquoi c'est pas confortable? Qu'est-ce que, pour tu l'as vécu sans doute avec des joueurs et des joueuses également, qu'est-ce que tu penses qui devient inconfortable pour lui? Le fait de pas scorer ou d'être plus surveillé? C'est quoi le degré de difficulté duquel il doit, tu sais, qu'il doit surpasser?
L'ensemble de ses réponses, mais surtout, j'ai l'impression qu'il pense trop. Lorsqu'on dit, il pense la game.
Y a-tu perdu son instinct un petit peu, Daniel?
Un peu.
Comme...
Oui, ouais. Un peu, parce que là, il va pas au naturel. Il va plus à, OK, je me suis fait dire telle chose, d'aller un petit peu plus bas, d'aller un petit peu plus haut, de peut-être revenir plus rapidement, d'être plus à l'affût de où je suis par rapport à qui. Alors là, tu joues la game, c'est-à-dire dans ta tête. Et quand tu la joues dans ta tête, tu perds de ton naturel. Et c'est comme ça qu'on le connaissait. On l'a séparé de Suzuki à un moment donné en disant on aimerait que tu apprennes à jouer avec d'autres joueurs. Pourquoi? Pour développer justement ta prise de décision. Alors, on tente de faire beaucoup en peu de temps avec lui. Et là, ben, ça va, c'est une question de temps. C'est un peu, tu sais, là, j'ai un peu le Tiger Woods lorsqu'il avait gagné son premier jacket, son premier master, il disait maintenant je vais changer mon swing. On disait mais comment ça fait que tu vas changer ton swing? Tu gagnes. Il dit je veux gagner longtemps et pas juste cette année. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec lui, d'y montrer peut-être trop rapidement. Et ça, comme coach, à un moment donné, tu dis, moi, je vais lui montrer. Puis Martin Saint-Louis, lorsqu'il entend que Slavkovski devrait retourner des mineurs, puis maintenant, mais il aime pas ça comme coach, parce qu'il dit, moi, je me suis fait dire ça toute ma vie. Alors moi, ces joueurs-là, je vais les aider pour, justement, devenir un joueur plus complet.
Ah, tu penses qu'il y a de quoi qu'il prend personnel dans le parrainage dans le mentorat d'un joueur par rapport à sa propre expérience?
Oh, que oui. Et un coach, c'est un peu comme ça. T'as des joueurs que tu peux affectionner plus que d'autres parce que tu te revois plus jeune. Et souvent, on lui demande hein, de comparer qui pouvait faire tel jeu. Alors, il voit en ces jeunes joueurs, il se revoit. Je suis convaincue qu'il se voit. Et c'est une des raisons pour laquelle un peu Cole Caulfield, le message passe tellement bien avec lui. Il ne perd pas confiance parce qu'il sait que c'est pas son entraîneur qui va lui dire comment ça se fait que ça fait 6 matchs que t'as pas marqué, puis t'es juste à 7 buts cette année. Pour lui, c'est correct pour l'instant parce qu'il voit beaucoup plus loin, puis c'est le futur Cole Caulfield et pas l'immédiat.
Fait que toi, t'es pas du tout ébranlé, tu souscris à la démarche Martin avec.
Et Marc Bergevin.
J'ai une pensée, tu l'as deviné, effectivement, c'est le nom qui était pour sortir, Dieu sait pourquoi. Mais donc, t'as aucun problème avec la démarche en cours. Tu sais, l'équipe, on parlait beaucoup de concepts offensifs l'an passé, puis cette année, on entend beaucoup plus Martin parler de l'importance de jouer sans la rondelle, de jouer offensivement aussi, mais défensivement. Et c'est quand même, on dirait que c'est un laboratoire et il y a quand même une bonne marge de manœuvre pour pouvoir faire ça. Il y a beaucoup d'anciens coachs qui doivent se dire « Hey, j'aurais aimé ça, avoir cette même marge de manœuvre-là pour travailler, ne crois-tu pas? » Son capital de sympathie de par sa carrière permet des affaires, je sais pas combien de temps, la lune de miel ou la je dirais pas l'indulgence, la tolérance, en tout cas l'adhésion va durer, mais c'est bel et bien le cas, là.
Mais c'est le leadership du Canadien qui se sont fait offrir dans un contexte bien particulier en disant voici cette équipe-là, qu'est-ce que vous allez faire? Puis vous avez quand même une perspective de temps qui est beaucoup plus longue que de gagner ici maintenant. Ils ont fait des choses qu'on ne croyait pas. Un GM qui est devenu un ancien agent joueur qui est devenu un GM. Martin qui n'était pas nécessairement un entraîneur. Et on veut construire justement. Tantôt, Max parlait d'ADN, de culture à Teddy Bird, et c'est ça qu'on est en train de reconstruire à Montréal, c'est cette identité-là et de les détails, l'éthique au travail, d'être capable de jouer avec plus d'un joueur, de se développer, de garder sa confiance, même si on est peut-être dans une autre zone de confort. Alors oui, Martin Saint-Louis le prend personnel, dans le sens que il veut que ses joueurs, fondamentalement, il veut que ses jeunes joueurs soient meilleurs que ce qu'ils ont appris jusqu'à maintenant. Le type de hockey, l'impact qu'ils ont eu jusqu'à maintenant, il veut aller beaucoup plus loin que ça. Et ça, c'est faire du hockey pour les bonnes raisons. Non, pas juste pour gagner maintenant, mais de gagner puis de gagner pendant plusieurs années lorsque la recette va bien marcher. Mais on est en train encore de goûter à certains ingrédients pour dire quelle sorte de recette qu'on veut avoir.
C'est intéressant. Toi qui es directrice générale d'une équipe, la première équipe de l'histoire de la nouvelle Ligue de hockey professionnelle va commencer ses activités au mois de janvier, sur quoi tu t'appuies pour bâtir la philosophie puis ce que va devenir ton équipe pour la première mouture?
Ben, dans un premier temps, on a eu un repêchage. On ne repêche pas toujours les joueurs qu'on veut, mais en même temps, on a cependant repêché le type de joueurs qu'on voulait. On veut baser sur la créativité, sur la vitesse, d'être capable justement de jouer avec plus d'un type de joueuse. Exemple, Marie-Philippe Poulin, qui joue depuis 2010, en fait, avec l'équipe canadienne, a joué avec un groupe très restreint de joueuses. Et là, elle est devant le fait qu'elle va jouer avec des joueuses qu'elle ne connaissait pas. Une joueuse qui vient de graduer du collège, une autre qui jouait en République tchèque et qui joue sur son équipe nationale là-bas. Alors là, c'est de vraiment dire individuellement c'est quoi vos forces et comment qu'on va bâtir cette chimie-là. Alors oui, ça va prendre un certain moment, mais en même temps, c'est des femmes qui sont extraordinaires, qui veulent faire le travail, qui veulent faire les petits détails. On leur présente beaucoup de vidéos pour arriver à dire, ben voici comment on veut que cette équipe-là joue à peine là, 3 semaines. Et là, 2 et 3 semaines, ces joueuses-là ne se connaissaient pas. Elles se sont rencontrées pour la première fois le 15 novembre et le 2 janvier prochain à Ottawa, ce sera le premier match, et à Montréal le 13 janvier à Verdun. Alors, on veut créer justement en disant, on va faire des erreurs, mais c'est correct, on va apprendre ensemble, c'est ensemble qu'on va aller plus loin. Alors, on cogne sur le clou de dire, vous avez de l'impact, on veut compter des buts, mais lorsqu'on va revenir à la maison, c'est-à-dire dans la zone, on se doit de jouer très, très serré pour fermer l'enclave à l'adversaire.
OK, puis je reviens.
Donc,
à Martin Saint-Louis.
C'est très rapide, mais en même temps, c'est un peu ce que j'ai bien l'impression que tu vas me demander, mais vas-y.
Bien, en ce sens que donc, c'est un peu ce que Martin Saint-Louis veut faire avec son club. C'est aussitôt qu'on a rondelle, on est 5 qui attaquent. Aussitôt qu'on la perd, on est 5 en défense. Est-ce que ça résume aussi ta philosophie?
Mais c'est un peu ça, parce que, tu sais, la fameuse un joueur de défense, un joueur d'avant, tu es 6 sur la patinoire. Parce qu'il faut utiliser aussi, on voit de plus en plus les gardiens de but sortir de leur rectangle.
Oui.
Alors, quand tu as perdu la rondelle, tu es en mode, évidemment, défensif. Tu veux la récupérer. Alors, que ce soit un joueur de défense ou un joueur d'avant, donc c'est vraiment attaquer à 5, de revenir à 5 et de vraiment d'avoir une transition entre les deux le plus à 5 possible. Et ça, ben ça s'apprend. Qui va aller comment? Si moi je reviens, je suis un joueur de centre, et je m'aperçois que je reviens la troisième dans mon territoire, ben je vais aller couvrir un défenseur parce que définitivement la joueuse d'avant qui s'est retrouvée dans son territoire la première va être probablement très près des défenseurs. Donc c'est vraiment le système 1-2-3-4-5 et non premier défenseur, deuxième défenseur, premier joueur d'avant et deuxième. Tu sais, c'est vraiment de créer la surface, puis c'est très européen comme approche.
Et c'est pour ça que je disais dans une conversation avec une auditrice hier que de plus en plus on dit dans les séminaires de formation d'entraîneurs, quoi que ce soit, d'éliminer le mot défenseur pour le remplacer par arrière, hein, des arrières, des avant, puis ça se promène. On joue à 5 en avant, 5 en attaque, 5 en défensive, et c'est de plus en plus le vocabulaire moderne du hockey, Daniel. Qui mettrais-tu devant le filet en terminant demain? Est-ce que tu appliques la logique qui est en vigueur seulement la semaine passée puis au début de l'année avec Jake de redonner un départ vite à Primo parce qu'il était bien bon samedi? Ou là, ben, ça fait quand même quelques jours que Montembeau n'a pas vu d'action. Le ramènes-tu devant le filet demain?
Moi, je ramènerais Montembeau. C'est quand même une équipe, les Pittsburgh, les Penguins de Pittsburgh, qui a une certaine difficulté. Tu disais tantôt qu'ils viennent de marquer un avantage numérique.
Oui, 23-2.
Sont en panne sèche. Alors, c'est une équipe expérimentée qui est capable de rebondir en... Là, ils jouent ce soir, donc 2 matchs en 2 soirs. Moi, je reviendrai avec Montembeau.
Et ils viennent de marquer un quatrième but au moment même où tu amorçais ta phrase. Daniel, un gros merci. Je te souhaite une excellente fin de soirée et on se retrouve très bientôt, ma chère.
Merci, bonne soirée à tout le monde.
Merci, c'était Daniel Sauvageon.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.